cette matinée, nous aimerions réfléchir sur un sujet que nous avons formulé de cette manière, l'espérance est la force de notre témoignage. L'espérance est la force de notre témoignage. Nous sommes dans un pays où il est difficile d'espérer à cause de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans d'autres provinces. Si vous voyez bien ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux et même des informations à la radio, vous constaterez que notre pays est malade. Il y a des kidnappings, des tueries que l'est de la RDC est en train de traverser. Il y a aussi la corruption qui est devenue une valeur en RDC, le mensonge, et même il y a certaines choses qui ne sont pas réglementées dans notre pays. C'est seulement notre pays où on peut faire 6 mois sans gouvernement et les choses sont en train d'évoluer comme si de rien n'était. C'est dans notre pays où on est en train d'égorger les gens, c'est plus que même le génocide, mais les dirigeants de notre pays ne sont pas en mesure de s'exprimer pour dire, même décréter le deuil national. Nous sommes dans un pays, peut-être, je dirais, à d'autres termes, dirigé par des stagiaires, parce qu'ils ne savent pas ce que le peuple a besoin et comment promouvoir la dignité humaine. Nous sommes dans un pays où l'espoir est totalement perdu. Le tribalisme est à son paroxysme. On est en train de s'entretuer. On ne sait pas même qui est congolais et qui ne l'est pas parce que on n'a pas même des cartes d'identité. Et malgré tout ce défi-là, nous devons savoir que le Seigneur est avec nous. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 35 jusqu'à 39, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même si nous traversons des tribulations, même si nous traversons des persécutions, même s'il y a des tueries à l'est de la RDC, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et nous devons aussi savoir que tous ceux que nous sommes en train de voir, nous ne les verrons plus jamais, comme Dieu l'a dit aux enfants d'Israël, que les Égyptiens que vous êtes en train de voir, vous ne les verrez plus jamais. Mais qu'est-ce que l'Église peut faire dans cette situation? C'est vrai que nous devons prier, mais à part la prière, nous devons aussi former les politiciens. L'Église est appelée à former des politiciens. Regardez ceux qui vont dans l'armée, ce sont des personnes sans valeur morale. Des personnes qui ne sont pas même intelligentes. Dans d'autres pays, pour aller dans l'armée, il faut être excellent. Mais en RDC, c'est tous les voyous qui vont dans l'armée. Alors l'Église est appelée à former des politiciens. Nous sommes appelés à former des députés nationaux, provinciaux, je ne sais pas, des policiers. Nous sommes appelés à former des politiciens. Il y a un humaniste français, Albert Jacquard, il a dit, il n'y a pas de tête à couper, il n'y a que de tête à changer. Pour changer la RDC, on doit travailler sur la mentalité de l'homme congolais. Parce qu'on peut changer de gouvernement, mais on restera toujours au même niveau, parce que on n'a pas changé encore la mentalité de l'homme congolais. C'est pourquoi on peut changer Kabila, Tshisekedi, mais c'est toujours la même situation et c'est toujours la même personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service des grandes puissances mondiales et ils sont simplement en train de nourrir leur ventre au lieu de penser au social de la population. Alors, pour comprendre notre sujet, nous allons parler de 3 points. Premièrement, nous allons parler de notre espérance. Deuxièmement, nous allons parler de la force de notre témoignage. Et enfin, nous allons parler de l'espérance dans la souffrance. Commençons par la première partie qui parle de notre espérance. La situation que nous vivons en RDC rappelle celle des premiers lecteurs du livre d'Apocalypse. Quand Jean écrivait le livre d'Apocalypse, il y avait une crise totale. Il y avait la persécution des chrétiens. Il y avait le culte de l'empereur, mais aussi il y avait la séparation entre judaïsme et christianisme. Et suite à ce défi-là, suite à cette crise-là, Jean a écrit un message de réconfort pour les premiers lecteurs du livre d'Apocalypse, en leur disant qu'ils ont déjà vaincu parce que Christ a déjà vaincu. Alléluia. Nous aussi, malgré tout ce que nous traversons dans notre pays, nous devons savoir que nous avons déjà vaincu parce que Christ qui habite en nous, lui, il a déjà aussi vaincu. Nous sommes des vainqueurs. Et le Christ qui est en nous, il nous donne la victoire sur toutes choses. Et là où nous venons de lire, dans Apocalypse chapitre 11, Dieu est en train de consoler les chrétiens, les premiers lecteurs du livre d'Apocalypse, et il les dit, vous êtes un temple saint, et vous êtes aussi mon autel sur lequel je suis adoré. Vous vous souvenez, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 jusqu'à 17, mais aussi 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, Paul est en train de dire, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite à vous ?» Quand la parole de Dieu est en train de dire que nous sommes un temple saint, nous sommes l'autel sur lequel Dieu est adoré, vous allez remarquer aussi dans ce passage que les temples, l'autel et même ceux qui adorent, ils sont tous mesurés. Et des fois, nous mesurons une parcelle pour la garder. On mesure une parcelle pour la protéger. Quand on dit que le temple est mesuré, l'autel est mesuré, c'est-à-dire l'église est gardée par Dieu. L'église est protégée par Dieu. Malgré les circonstances que l'église peut traverser, l'église doit savoir qu'elle est protégée par Dieu. Alléluia. Nous sommes protégés par Dieu. Et dans ce passage, on montre aussi que les incrédules, les ennemis du peuple, ils ne sont pas protégés par Dieu. À partir de cela, cette matinée, Dieu veut nous consoler en disant que nous devons savoir que nos souffrances sont mesurées par lui. Nos persécutions sont mesurées par lui. Nous devons savoir que Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos souffrances, il connaît nos problèmes, même avant de les exprimer, il les connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît même le nombre de nos cheveux sur la tête. Si vous lisez Luc chapitre 12 verset 7, la Bible montre que Dieu même connaît le nombre de nos cheveux qui sont sur nos têtes. Et Job a dit, dans Job chapitre 19 verset 25, il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se révélera le dernier. » Le Dieu que nous servons, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et nous sommes son autel parce que nous traversons notre souffrance comme celle de Jésus-Christ. Et à notre souffrance aussi, nous devons ajouter celle de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes l'autel de Dieu. Nous sommes un temple saint pour Dieu parce que Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît nos mesures, il connaît tout ce qui est persécution dans notre vie. Et dans ce passage aussi, on nous montre que la souffrance est de 42 mois. 42 mois équivaut à 1260 jours. 1260 jours qui est égal aussi à 3 ans et demi. Et 3 ans et demi qui est la moitié de 7 ans. Et 7, c'est le chiffre de la plénitude. Tout simplement pour dire que notre souffrance est limitée. J'aimerais dire cette matinée aux enseignants, qu'on paye toujours à monnaie de singes et même au calendrier grec que votre souffrance est limitée. Limitée dans le temps et dans l'espace. Parce que nous avons un Dieu qui nous connaît parfaitement. Passons au deuxième point qui parle de la force de notre témoignage. En parlant de la force de notre témoignage, notre texte parle de deux témoins. Parle de deux oliviers, mais aussi de deux chandeliers. Alors, en examinant en fond les rôles de deux témoins, on peut tout simplement conclure que ces deux témoins, c'est tout simplement Élie et Moïse. Pourquoi? Parce que dans les passages que nous venons de lire, on nous parle du changement de l'eau à sang. C'était pendant l'époque de Moïse, quand il voulait libérer les enfants d'Israël en quittant Égypte pour aller à Canaan, il y a eu changement de l'eau à sang. On parle aussi des plaies, c'est toujours à l'époque de Moïse. On parle aussi du feu qui consume les ennemis. Là, nous voyons Élie, mais aussi on parle que les témoins, il avait même le pouvoir d'arrêter la pluie. Tout cela, c'est par rapport à Élie. Alors nous sommes, en tant qu'Église, nous sommes ces deux témoins. Nous sommes Moïse et nous sommes aussi Élie. Pourquoi? Parce que notre témoignage est vrai. Notre témoignage est vrai. Le témoignage que nous proclamons dans le monde, le témoignage de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est un témoignage vrai. C'est pourquoi nous sommes Élie et Moïse. Aussi, en parlant de Élie et Moïse, cela veut tout simplement nous dire que les promesses qui sont dans l'Ancien Testament ont été accomplies à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre parce que nous avons les calibres d'Élie et même de Moïse parce que nous prions et Dieu nous exauce. Alléluia. On parle de deux oliviers. Nous sommes les deux oliviers parce que le Saint-Esprit habite en nous. Mais aussi nous sommes les deux oliviers parce que le Saint-Esprit donne la force à notre témoignage. Quand nous proclamons la mort et la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, tout en ayant le Saint-Esprit en nous, notre témoignage a une force. Et le Saint-Esprit habite en nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Il fait son entrée à nous et il est là pour nous enseigner, il nous conduit, il nous dirige, il nous fait souvenir même de la parole de Dieu pour que nous faisions tous les jours la volonté de Dieu. Mais aussi nous sommes les deux chandeliers. Nous sommes les deux chandeliers pourquoi? Parce que dans notre témoignage, nous proclamons la vérité. Mais aussi nous éclairons le monde à partir de notre témoignage. C'est pourquoi nous sommes les deux chandeliers. Et on parle des chandeliers d'or parce que nous sommes précieux au devant des yeux de Dieu. Alors parlons de l'espérance dans la souffrance. À parler de l'espérance dans la souffrance, j'aimerais que nous puissions focaliser notre attention sur 2 Corinthiens chapitre 4, verset 12 jusqu'à 18. Paul parle de trois raisons qui peuvent laisser à ce que nous puissions espérer malgré la souffrance que nous sommes en train de traverser. La première raison qui nous pousse à espérer, qui nous pousse à être stable malgré les circonstances de la vie, c'est que même si notre corps se détériore, même si notre corps est détruit, Dieu renouvelle notre homme intérieur. Au moment où nous perdons l'espoir, le corps est détérioré, on est massacré, égorgé, même on ne sait pas comment formuler une prière. Nous devons savoir que notre homme intérieur est renouvelé par Dieu. Et l'homme intérieur, c'est l'homme-là que nous avons reçu lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous avons cet homme-là intérieur, nous avons la foi en Jésus-Christ. Et c'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet même d'être stable malgré les circonstances difficiles de la vie. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors, pour que notre être intérieur puisse se renouveler, nous sommes appelés à avoir la foi en Jésus-Christ. Parce que même si le corps va se détériorer, l'homme intérieur va se renouveler. La foi en Jésus-Christ, c'est une foi nourrie par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu est comme l'épée parce que la parole de Dieu met tout au clair. La parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comme un marteau parce que la parole de Dieu consume et brise tout ce qui est mensonge dans notre vie. Mais aussi la parole de Dieu est comme un miroir parce que elle nous éclaire dans notre vie et montre notre état d'âme. Alors, nous devons nourrir notre homme intérieur. Nous devons nourrir notre foi de la parole de Dieu afin de rester stable malgré les tempêtes de la vie. Deuxième raison qui doit nous pousser à toujours espérer malgré la souffrance, c'est que les souffrances que nous traversons ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous réserve. Même si nous traversons des souffrances, elles ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous réserve. Il y a une grande gloire que Dieu réserve à toutes les personnes qui ont déjà crié à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ces personnes-là, ils sont d'abord revêtis de Christ et ils sont en train de dégager même l'odeur de Christ. Pourquoi? Les souffrances de ces moments ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous réserve. Étant sur terre, nous sommes des passagers et nous allons au ciel. Et dans notre marche chrétienne, nous devons compter sur la gloire et non sur la souffrance. Fixons nos regards sur la gloire que Dieu nous réserve au lieu de fixer nos regards sur la souffrance que nous traversons du jour au lendemain. Parce qu'il y a une grande gloire que Dieu réserve à toutes les personnes qui vont rester fidèles à lui. Et troisième raison qui doit nous pousser toujours à compter sur la grâce de Dieu, à espérer malgré la souffrance, c'est que les choses qui sont visibles, que nous voyons dans ce monde sur terre, ce sont des choses qui sont passagères. Mais les choses invisibles sont des choses qui sont éternelles. Alors nous devons nous pencher à des choses qui sont éternelles et pas des choses qui sont éphémères. Deux fois dans notre vie de chaque jour, nous voulons pencher notre regard et notre attention sur des choses qui sont éphémères. On veut nourrir notre corps, on veut habiller notre corps, mais j'aimerais vous dire que tout ce que nous cherchons et tout ce que nous désirons, ce sont des choses qui sont passagères. Mais nous devons chercher le royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu s'installe à nous, afin que nous soyons des vainqueurs et que nous soyons stables dans ce monde totalement corrompu. Pour conclure notre message, j'aimerais dire que quand nous servons Dieu, nous devons savoir que nous avons la force d'Élie et Moïse. Parce que nous prions et Dieu nous exauce. Et dans notre souffrance, nous devons savoir que nous sommes l'autel de Dieu. Nous sommes l'autel de Dieu et nous sommes appelés à nous offrir comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Nous devons dire non au péché afin de plaire à Dieu. Mais aussi, quand nous traversons notre souffrance, nous devons savoir que même si notre corps se détériore, Dieu renouvelle notre être intérieur et nous sommes appelés à nourrir notre être intérieur par la parole de Dieu. Aussi, nous sommes des chandeliers d'or parce que nous propageons le témoignage de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à éclairer le monde à partir de notre témoignage. Vivons comme Christ, pensons comme Christ et aimons aussi les autres comme Christ nous a aimés. Et à ce moment-là, nous allons vivre à paix dans notre pays. Formons des bons politiciens dans nos églises. Et si il y a aussi à revendiquer, l'Église doit revendiquer à haute voix et pas silencieux. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous. Amen.